Salutations à tous. Toujours une grande joie de partager la parole avec vous. Mais auparavant, je voudrais avoir une pensée pour Jean-Luc, qui est pour le moment à Herstal et qui nous transmet ses amitiés ainsi que toutes celles de la communauté d'Herstal. Notre frère Daniel a bien commencé parce que, en fait, il a démarré sur mon sillon, sur le sillon que je vais développer. Ça me fait vraiment plaisir. C'est ainsi que j'inaugure ce culte par ce premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous remarquez que les cieux sont au pluriel et la terre est au singulier. Mais avant toute chose, prions. Seigneur, merci de nous avoir installés dans ta création en nous donnant la possibilité d'y vivre et ainsi apprendre à connaître la grandeur de ton amour et de ton immensité. Que ce message puisse nous faire découvrir une facette inconnue de ta grandeur et ainsi nous apprendre à être plus respectueux pour la création dont nous sommes locataires. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. J'intitulerai mon message de ce dimanche « Peut-on mesurer la grandeur de Dieu ?» C'est ainsi que dans le psaume 8, verset français courant, et je vais les projeter, à partir du verset 2, nous lisons « Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre, ta majesté surpasse la majesté du ciel. » Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs et même les bêtes sauvages. Les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. David voit dans les splendeurs de l'univers les perfections invisibles de Dieu. Comme dans Romains 1, 20, je lis, « En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Donc les humains sont inexcusables. » Ce qui est interpellant, ce sont les deux questions. L'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Et un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? David reconnaît que nous sommes moins que rien. Et il se pose la question, méritons-nous que Dieu s'occupe de nous? Eh bien oui. Nous sommes son chef-d'œuvre, son accomplissement créatif. N'en déplaise à ceux qui ont du mal à l'admettre. Pourquoi? Parce que Dieu nous voue un amour sans limite. Il précise que nous sommes uniques, car il n'aura sacrifié son fils, Jésus, qu'une seule fois. Pourtant, au niveau cosmologique, nous ne sommes qu'une poussière dans l'infiniment grand. La question, peut-on imaginer la grandeur de Dieu? Si nous suivons le postulat que Dieu a créé l'univers, sommes-nous en mesure de nous faire une toute petite idée, du moins, de la grandeur de son univers? L'univers observable est visible uniquement par nos moyens technologiques actuels, bien sûr. Par exemple, les télescopes, nos satellites, les optiques de Hubble, qui est un télescope géant qui est placé sur orbite autour de la Terre. Ce que nous sommes capables de voir est compris dans une sphère dont le diamètre est de 91 milliards d'années-lumière. Je vais expliquer. Une année-lumière est égale à la distance que parcourt la lumière dans le vide de l'espace pendant une année, soit 10 000 milliards de kilomètres. Soit, en ce qui nous concerne, nous sommes dans une bulle de 10 000 milliards multipliés par 91 milliards. On ne sait pas voir plus loin. Au-delà, c'est l'interrogation. Par contre, ce que l'on sait, et chose incroyable, l'univers continue à s'étendre. On dit qu'il est en expansion. De plus, cette expansion s'accélère. Personne ne peut expliquer ce phénomène. Mais notre petitesse ne sait pas voir plus loin. On se vante de conquérir l'espace. Mais la distance de la Terre à la Lune n'est rien à côté de tout cela. C'est rien. C'est même pas une puce. D'où les deux questions, David. L'homme a-t-il tant d'importance pour que Dieu pense à lui? Et mérite-t-il vraiment que Dieu s'occupe de lui? Pour bien comprendre notre place dans cet univers, je vais vous inviter à vous projeter dans cette immensité. Et nous allons regarder ensemble une courte vidéo qui s'appelle « L'infiniment grand ». J'aime bien la dernière phrase. Face à l'échelle astronomique, ne serait-on pas insignifiant? Nous sommes insignifiants. Malgré cela, Dieu nous aime. Le psaume 139, « Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu, il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter ?» dit le roi David. Il y en a plus que de grains de sable. Bien dit. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, dit le roi David, je n'aurais pas fini de tout comprendre. Le roi David ne se basait pas sur un télescope, ni sur les satellites, ni sur Hubble. Mais malgré notre insignifiante petitesse, Dieu a jeté un regard favorable sur nous, sur chacun de nous, car nous étions sa création. Mais en plus, comme dans Jean 3,16, il l'a écrit, et cela, c'est la clé de notre foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Renier l'existence de Dieu, c'est renier tout simplement ses œuvres. Romains 1, que nous avons déjà cité, en effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, celles qui sont bien au-delà des 91 milliards d'années, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien. Quand on considère ses œuvres, les humains sont donc inexcusables. Le psaume 14, verset 1. Ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus. Ce qu'ils font est abominable. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut du ciel, le Seigneur se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligence qui se tourne vers lui. Tous ont quitté le bon chemin. Tous, sans exception, sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit le Seigneur. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple, et ne s'adressent jamais à moi. Notre orgueil a une telle dimension que nous devrons être moins fanfarons. dans nos trouvailles technologiques. L'homme espère aller vivre sur Mars, parce qu'ici, la vie devient possible. C'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi ? Pour y faire une décharge ? Pour y répandre la guerre ? Le pouvoir ? Le totalitarisme ? Comme nous sommes incapables de vivre en paix ne fût-ce qu'une heure, sur cette terre prêtée par l'Éternel, si nous déménageons, nous emportons tout cela avec nous. On tente de nous prouver que nous sommes le résultat du hasard. Une fois descend du singe, une autre fois du poisson. Pour d'autres, nous sommes le résultat de mélange d'hydrogène, de carbone azoté ou d'oxygène. Bref, c'est l'hasard qui a mélangé tout cela au fil du temps. Pour prouver cela, on pourrait faire une expérience et placer dans une machine à laver toutes les pièces détachées d'une machine à écrire mécanique, ce qui est loin d'être un sommet de technologie, hein, faut le reconnaître. Je vais la faire tourner pendant 2 millions d'années. Et il en sortirait, d'après les évolutionnistes, une machine à écrire en parfait état de marche. Est-ce que vous croyez cela ? Ah ben, que nenni. Remplacez le mot « hasard », « coïncidence », « évolution », « patience », « Big Bang », tout simplement par le nom de l'auteur, c'est-à-dire Dieu. Ne serait-ce pas plus simple et réaliste, et on se casserait quand même moins la tête. L'infiniment petit, parlons-en. Je fais une parenthèse ici. Je tiens mon doigt dessus pour ne pas que je perde le fil de mon idée après. Quand j'étais à l'école, j'ai appris en physique que le plus petit élément, c'était l'atome. Il y avait des électrons qui tournaient autour, et à l'intérieur, il y avait des protons et des neutrons. Point barre. Si nos visions du cosmos sont limitées à 91 milliards d'années-lumière, qu'en est-il de notre vision de l'infiniment petit ? Chaque décennie apporte un nouvel éclairage sur notre perception de l'infiniment petit et repousse chaque fois notre limite. Plus on va loin dans l'infiniment petit, et moins on sait. Une théorie d'aujourd'hui s'effondrera demain. Des microscopes électroniques et des ordinateurs quantiques nous lèvent un petit rideau. Je vous invite à regarder la vidéo suivante, la seconde et la dernière, qui nous éclaire sur le monde de l'infiniment petit. Donc, nous ne sommes même pas au tiers de ce que nous pouvons observer dans l'infiniment petit. Et comme il a été dit, il n'y a pas de fin ni de porte qui se ferme. Seul Dieu a la clé. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps est une machine de perfection, souvent malmenée, souvent sous-employée, sous-exploitée, souvent malade. Si nous ne sommes pas propriétaires de notre corps, cela suppose que nous appartenons à Dieu. Nous sommes donc locataires. Et nous devons avoir soin de notre corps. C'est pour cela que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le roi David a écrit ceci dans le psaume 139. « Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une si grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. » Ce passage explique que notre destinée est déjà inscrite depuis la conception, c'est-à-dire quand tu me façonnais en cachette dans le ventre de ma mère, traduisez, avant même que ma mère ne se rende compte qu'elle est enceinte, tout était déjà inscrit. Notre corps est une merveilleuse mécanique. N'est-il pas vrai? Nous allons prendre un exemple. Le cœur humain est un organe vraiment prodigieux. On est bien tous d'accord. Il possède une endurance exceptionnelle. et il peut subir des efforts immenses. Son travail non-stop nous accompagne tout au long de notre vie. Parfois, nous ne réalisons même pas que pomper du sang dans le corps est la fonction vitale la plus importante de notre corps. Quelques chiffres pour bien comprendre. L'organisme d'un adulte contient plus ou moins 5 litres de sang. C'est pas grand-chose, 5 litres. Une simple goutte contient 250 millions de cellules que l'organisme produit en permanence. Savez-vous que le cœur a la taille d'un poing et pèse 250 et 300 grammes? C'est pas grand-chose. C'est une pompe qui bat 100 000 fois par jour, pompant 5 litres de sang par minute, soit la totalité du sang contenu dans notre corps, à la vitesse de 2 km/h. Chez un adulte, le cœur pompe 10 000 litres de sang par jour. Imaginez une citerne de cette quantité. Pendant un jour, il remplit cette citerne. Pendant un an de fonctionnement continu, notre corps pompe 2 500 000 litres de sang. Sur 70 ans de vie, je l'ai déjà dépassé, le cœur distille plus de 175 millions de litres de sang dans tout le corps. Soit le remplissage de 1750 wagons, citernes de chemin de fer, ou 8000 camions-livreurs de 22 000 litres. C'est fou. En cas d'effort, il s'accélère et ce nombre devient bien supérieur. Comprenez-vous pourquoi maintenant nous devons entretenir et respecter notre cœur? Il nous maintient en vie. Le maltraiter serait maltraiter Dieu. Si Dieu n'est pas le créateur de cette mécanique fantastique, alors dites-moi qui lui donne l'énergie pour que ça la pompe, pour que ça fonctionne. Je ne crois qu'en ce que je vois. C'est une expression souvent répétée par les athées afin de justifier leur incroyance en Dieu. Ils jugent que Dieu est un être métaphysique et que par conséquent, on ne peut rien déduire à son sujet tant qu'on ne l'a pas encore vu. En d'autres termes, ils affirment que tout ce qui est absent à leurs yeux n'existe pas. Ou bien, ils ne voient pas l'ouvrage qu'il accomplit et ils sont aveugles. Ou ils n'admettent pas que Dieu nous voue un amour inconditionnel. Ça, c'est la foi. Ou bien ils donnent raison au psaume 53. 53, verset 2, écrit par David, qui précise qu'il n'y a que le fou qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Pourtant, les preuves de la puissance de Dieu sont claires. Nous l'avons vu en contemplant notre ignorance et de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. En conclusion, non seulement Dieu a manifesté sa puissance par sa création, mais surtout l'amour qu'il nous porte en offrant Jésus, son Fils unique, qui est mort et ressuscité, et qui est devenu notre sauveur, notre avocat, celui qui nous sauve de la perdition éternelle. On le remercie en démolissant son œuvre. On détruit sa planète. Nous l'avons vu, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Nous sommes donc inexcusables. Je termine par une sagesse amérindienne. Dieu n'est autre que le grand mystère du monde, au commencement de toutes choses. Il est aussi le principe de la vie, car le Créateur ne se dissocie jamais de sa création. Omniprésent, il est le seul vrai gouvernement qui dirige et oriente l'univers. Invisible, il est cependant la source familière du monde visible et son âme intérieure. Prions. Seigneur, que ton nom est grand. Tu es présent dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand. Merci, Père éternel, d'avoir jeté un regard favorable sur notre insignifiance. Tu as sacrifié Jésus, ton Fils unique, pour que nous puissions être considérés comme ton enfant. Tu t'es sacrifié une fois pour toutes, confirmant ainsi que nous sommes les seuls dans cet univers, afin, plein d'interrogations, notre regard ne s'arrête que devant nos pieds, à défaut de voir ce que tu vois de là-haut. Merci Seigneur pour l'intelligence et la science que tu nous as donnée pour mieux comprendre que ta limite et ton amour pour nous n'a pas de fin. Amen.